Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition Géopolitique en partenariat avec la revue internationale et stratégique dont le dernier numéro est consacré à la transition énergétique et à ses conséquences géopolitiques. Dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, les énergies renouvelables enregistrent une expansion rapide en raison non seulement de leur impact limité sur l'environnement mais aussi de leur coût de plus en plus faible. Si elle a des aspects bien sûr positifs, la transition énergétique n'en comporte pas moins des risques, notamment géopolitiques, avec une profonde modification du concept de sécurité énergétique. Regard sur les questions que pose le déploiement des énergies renouvelables au niveau mondial avec nos invités. Par téléphone, Samuel Carcanag, chercheur à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Bonjour.
Bonjour.
En studio, Emmanuel H., économiste à IFP Énergie Nouvelle et porteur du projet ANR Generate. Bonjour.
Bonjour.
Et Clément Bonnet, post-doctorant à IFP Énergie Nouvelle. Bonjour.
Bonjour.
Le monde s'est lancé dans une transition énergétique vouée à s'accélérer alors que les objectifs mondiaux en matière de lutte contre le changement climatique et de développement durable exigent une rapide décarbonation de l'énergie. Les investissements déjà réalisés dans les énergies renouvelables s'élevaient à quelque 332 milliards de dollars en 2018 et ce n'est évidemment pas fini. Quelles conséquences cette transition énergétique a et va-t-elle avoir sur la géopolitique mondiale ? On parle de complexification de cette géopolitique, de nouveaux rapports de force liés notamment aux questions de sécurité énergétique, de nouvelles dépendances, de la dépendance aux ressources fossiles à une dépendance à d'autres ressources avec une composante technologique majeure étroitement liée au système de propriété intellectuelle. Où en est-on de la question des énergies renouvelables aujourd'hui et quelles questions le déploiement de ces énergies pose-t-il au niveau mondial d'un point de vue géopolitique ? Samuel Carcanag.
Alors, ça pose toute une série de questions puisque les énergies renouvelables sont une source d'énergie très différente des énergies des hydrocarbures. Vous avez une série de questions. La première question, c'est les matériaux nécessaires à la constitution des technologies renouvelables, c'est-à-dire les matériaux qui sont nécessaires à la fabrication d'éoliennes, à la fabrication de panneaux solaires, par exemple. Et donc, ces matériaux, il faut aller les chercher. C'est souvent des matières premières minérales dont l'exploitation est soumis à certaines contraintes économiques, certaines contraintes évidemment environnementales. Et donc, ces matériaux qui sont nécessaires aux technologies bas carbone sont un enjeu géopolitique majeur de ces futures décennies. Ensuite, vous avez évidemment l'enjeu de la propriété intellectuelle. Ce sont les brevets, en fait, qui innovent dans la transition énergétique, qui détient les brevets des technologies bas carbone. Et quel rapport de force cela crée entre les pays sur la scène internationale. Et enfin, une des questions que soulève aussi la transition énergétique et la diffusion progressive des technologies bas carbone, c'est l'adaptation des pays producteurs d'hydrocarbures, qui sont des acteurs traditionnels de la scène géopolitique mondiale, l'Arabie Saoudite, la Russie, mais aussi les États-Unis et le Canada pour le pétrole non conventionnel. Tous ces pays-là vont devoir s'adapter à la transition énergétique et cela va évidemment créer de nouvelles tensions géopolitiques, de nouveaux rapports de force qu'il s'agira d'analyser.
Alors voilà, Samuel Carcanag nous a planté le décor, si je puis dire, Emmanuel H., la question donc de ces matériaux nécessaires aux technologies bas carbone. On pense tout de suite à la Chine avec les terres rares. Et cette question tout de même, alors on fait des efforts sur le plan environnemental, on sait tout ce que génèrent les hydrocarbures, etc. Mais finalement, l'exploitation des terres rares en Chine ou ailleurs, elle pose d'autres problèmes en termes environnementaux qui n'annihilent pas complètement cette problématique, Emmanuel H.
Effectivement, mais si vous me permettez, je voudrais juste revenir sur votre question précédente, notamment sur la complexification de la géopolitique énergétique. Tout simplement, nous vivons dans un monde où nous sommes en transition. Mais lorsque vous regardez un tout petit peu les évolutions de consommation énergétique, on est passé d'environ 9 millions de tonnes équivalent pétrole en 2000 à près de 13 millions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, on ne substitue pas formellement les énergies. À l'heure actuelle, on a plutôt un schéma d'addition énergétique, c'est-à-dire qu'on consomme du gaz, du pétrole, du charbon, qui sont les énergies carbonées, mais on consomme également des renouvelables, c'est-à-dire de l'éolien, de la biomasse, du solaire. Et ce dont on s'aperçoit, c'est qu'au final, c'est cette addition énergétique qui crée une nouvelle couche de complexité géopolitique, tout simplement parce que chaque technologie ou chaque énergie porte en elle-même une forme de géopolitique. Et c'est pour ça qu'elle se complexifie. C'est-à-dire que, intuitivement, vous pourriez vous dire, bah, effectivement, si j'installe une éolienne ou un panneau solaire, je ne prends l'énergie à personne. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conflit d'usage. Il n'y a pas de conflit d'usage, c'est tout à fait vrai. Par contre, il y a possiblement des conflits géopolitiques, soit dans la production de l'innovation elle-même, soit dans les matériaux qui doivent rentrer dans le processus de production de cette innovation. Et c'est pour ça qu'il y a une complexification de la géopolitique. Alors après, pour répondre à votre question, oui, bien évidemment, la question notamment des terres rares, mais en fait, on va plutôt parler de matériaux stratégiques, parce que les terres rares, c'est une issue en soi, et entre guillemets, les terres rares ne sont pas si rares que ça. Mais bien évidemment, il y a des questions environnementales qui sont posées, il y a des questions de commerce international, notamment avec la Chine, qui sont posées, qui ont déjà été posées autour de 2010-2011, lorsque la Chine avait décrété un embargo sur les terres rares pour le Japon. Mais ce qui est très intéressant, c'est les évolutions actuelles. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, la Chine est en train de devenir importatrice nette de terres rares. C'est-à-dire que la consommation intérieure chinoise en terres rares est tellement importante que la Chine a réduit considérablement ses exportations. Là, on n'est plus dans la géopolitique, on est dans la géoéconomie.
Clément Bonnet, vous souhaitez intervenir pour ajouter quelque chose peut-être sur cette question de la Chine éventuellement ou...
Sur la question de la Chine, je pense que j'aurai l'occasion d'en reparler ensuite sur plutôt leur stratégie en termes de propriété intellectuelle. Mais pour revenir sur cette idée d'une complexification de la géopolitique de l'énergie, c'est vrai qu'on s'oriente vers une géopolitique de l'énergie où avant ce qui primait c'était la sécurité de l'accès en fait à la ressource primaire, au pétrole, au gaz, au charbon. Et on s'en rend vers une nouvelle géopolitique où le rôle de la technologie devient très important. Pourquoi ? Parce que si vous prenez par exemple le coût moyen de production d'un mégawattheure d'électricité à base de charbon, si le prix du charbon augmente de 50%, le prix de l'électricité, in fine, augmentera de 35%. Le coût de production de l'électricité augmentera de 35%. Donc on a un lien direct entre la sécurisation de l'approvisionnement et le prix de l'électricité. Dans le cadre de la transition énergétique, on s'oriente vers des technologies où en fait le combustible, le vent ou le solaire, coûte quasiment rien. Et donc, c'est plutôt la technologie et l'efficacité de cette technologie et le coût de cette technologie qui devient primordial dans le cadre de cette nouvelle géopolitique de l'énergie. Et sur cette question, bien entendu, les droits de propriété intellectuelle deviennent très importants, puisqu'ils sont ce cadre juridique, en fait, qui définit le prix auquel les gens peuvent avoir accès à cette technologie. Donc, on voit qu'en fait, la technologie gagne en importance dans le cadre de cette transition.
Alors, moi, ce qui m'intéresse aussi dans ce que a dit précédemment Emmanuel H, et peut-être je me tourne vers vous, Samuel El Karkana, c'est ce côté addition, c'est-à-dire que les énergies renouvelables ne viennent pas remplacer les énergies fossiles, hein, comme on avait pu le penser. On est dans le toujours plus. Quelle en est la raison ?
Oui, tout à fait. La consommation d'énergie primaire va augmenter dans le monde et on ne va pas s'arrêter de consommer des hydrocarbures dans les prochaines années. A priori, toutes les études montrent que la baisse de la demande en hydrocarbures devrait, en pétrole en tout cas, devrait intervenir aux alentours de 2040, voire même après. Donc la question des énergies renouvelables, c'est quelle part va prendre ces énergies renouvelables dans le mix énergétique mondial. Mais la consommation globale d'énergie va augmenter et la consommation de pétrole va augmenter également. Et donc les enjeux en fait vont s'additionner. Les enjeux, la géopolitique du gaz, la géopolitique du pétrole, la géopolitique des différentes énergies renouvelables et des enjeux associés, les matériaux énergétiques et l'accès aux technologies. Toutes ces couches géopolitiques, si j'ose dire, vont s'additionner pour donner cette complexification du paysage énergétique et géopolitique mondial.
Alors je parle sous votre contrôle, Emmanuel H, mais 67% de l'énergie finale consommée dans le monde était d'origine fossile en 2015. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ?
C'est assez simple, je peux vous dresser le paysage. En 2018, les énergies renouvelables représentaient 3,6% de la consommation d'énergie primaire. Alors, vous avez deux façons de le voir. La première, c'est de comparer à 1970, où en 1970, ces énergies renouvelables représentaient 0,13% du mix énergétique mondial. Donc ça, c'est une façon de vous montrer que oui, effectivement, la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique a progressé. Par contre, une deuxième façon de répondre à votre question, c'est de vous dire que 86% de la consommation primaire à l'heure actuelle est toujours carbonée. C'est-à-dire que nous sommes toujours, en fait, dans un monde qui consomment de l'énergie fossile et qui en consomment de plus en plus. D'où justement cette problématique. Si vous prenez par exemple le cas du pétrole, il y a encore une fois deux façons de le voir. Soit vous parlez en part relative, c'est-à-dire que vous regardez au premier choc pétrolier, le pétrole c'était environ 50% en fait de la consommation d'énergie primaire dans le monde, c'est 34% actuellement. C'est-à-dire que oui, effectivement, la part relative du pétrole dans le mix a diminué. Mais lorsque vous regardez en fait le volume de pétrole consommé entre 1970 et aujourd'hui, en fait, il a doublé. Tout simplement. Vous avez une augmentation, en fait, de plus de 100%, en fait, du volume de pétrole consommé. Alors, après, là où je suis peut-être un petit peu en désaccord avec mon camarade, c'est cette espèce de fatalité qu'il y aurait à avoir une consommation énergétique qui continuerait, en fait, d'augmenter dans les années qui viennent. Pourquoi ne pas imaginer une géopolitique de la sobriété? Il y a de nombreuses technologies, en fait, qui sont à l'heure actuelle brevetées, inventées pour réduire potentiellement, en fait, la consommation énergétique mondiale. Et la question de la sobriété, la question notamment des low-tech, hein, c'est-à-dire des technologies plutôt bas carbone, mais plutôt, j'allais dire, aussi avec une très faible intensité énergétique, en fait, elle est essentielle dans la question de la transition énergétique. Et notamment certains pays, hein, je pense à l'Inde, ont énormément investi, alors peut-être plutôt au niveau local, probablement pas au niveau national, mais vous avez tout un courant, en fait, hein, qu'on appelle le courant de l'économie frugale, qui justement se porte sur ces questions de sobriété et qui apporte, j'allais dire, un élément un tout petit peu différent justement à cette géopolitique de la transition énergétique où on a toujours l'impression qu'il faudrait consommer davantage au niveau international.
Clément Bonnet.
Oui, alors sur la question de l'Inde, c'est très intéressant parce que on se rend compte que l'Inde a de plus en plus de mal à concilier ces dernières années ses impératifs de développement avec ses impératifs de développement durable et de transition énergétique. Et sur ce point, les brevets et la question de la technologie redevient assez problématique puisque dans toute l'histoire des négociations climatiques, l'Inde a réclamé une suppression ou du moins un assouplissement des règles de propriété intellectuelle sur les technologies des énergies renouvelables pour leur permettre en fait de réaliser une transition énergétique à moindre coût. Et on se rend compte que c'est un facteur assez bloquant dans les négociations climatiques. Aucun accord n'a été pris sur un transfert de technologie. Mais pour vous donner un ordre d'idée, si on liste les projets de centrales charbon qui existent actuellement en Inde et dont on sait qu'ils vont être montés dans les années prochaines, eh bien, on arrive à deux fois l'équivalent du parc français en termes de puissance installée électrique. Et donc, il faut comprendre que l'Inde dispose d'un pouvoir de négociation de fait dans les négociations climatiques parce que, à elle seule, elle peut en fait fragiliser la réalisation des objectifs pris pendant l'accord de Paris. Donc, la question de ce transfert de technologie et de permettre à des pays comme l'Inde de concilier développement avec transition énergétique va devenir de plus en plus importante dans les années à venir.
Alors, on va rester sur la question des transferts de technologie qui était finalement deuxième point évoqué par Samuel Carcanag en décrivant ce panorama aujourd'hui relatif aux questions des énergies renouvelables, la propriété industrielle, la question des brevets. On parlait de l'Inde, vous parliez de l'Inde, Clément Bonnet, l'Inde, pays du Sud, mais parmi les plus grands et probablement les plus avancés. Quelle place finalement pour les pays du Sud, petits, moyens, face à ces technologies bas carbone?
Alors, dans le cadre des négociations climatiques, historiquement, on a vu les pays du Sud rassemblés sous la houlette du G77 et en fait faire front commun généralement avec la Chine, l'Inde, le Brésil et la Russie sur ces questions-là. Donc depuis 92, en fait, depuis l'adoption de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, on a un front commun de la part de ces pays pour réclamer un assouplissement de la propriété intellectuelle et des accords plus ambitieux en termes de transfert de technologie. Ces dernières années, les choses ont beaucoup changé, puisque notamment la Chine, en fait, tout en ayant adopté cette stratégie, est en passe d'achever de rattraper son retard sur le plan technologique. Et donc, il faut voir comment va choisir d'adapter sa stratégie la Chine. Et je pense notamment à énormément de pays d'Asie du Sud-Est qui ont du mal à peser dans la négociation climatique, mais qui passent en fait des partenariats bilatéraux avec la Chine, qui incluent d'une part du transfert de technologie, et d'une part un accès privilégié, et ça c'est un petit peu ce dont on parlait tout à l'heure, aux réserves en termes de terres rares de la Chine, qui lui permettent d'intégrer complètement ses filières de production des énergies renouvelables, puisqu'elle dispose en fait de la ressource nécessaire que sont les terres rares, et puis elle a toutes les filières derrière qui sont capables de produire de manière compétitive ces technologies maintenant. Donc il y a de plus en plus de pays du Sud qui se rendent vers des contrats bilatéraux avec la Chine sur ces questions-là.
La Chine, je me tourne vers vous, Samuel Carcanag, Emmanuel H, la Chine qui joue le jeu dans ces questions et sur ces questions de transition énergétique, d'énergie renouvelable.
Écoutez,
Emmanuel H.
La Chine, elle est évidemment centrale dans cette question à la fois de la géopolitique des énergies renouvelables ou de la transition énergétique. Elle l'est à plusieurs niveaux. Elle l'est parce que tout simplement, la Chine se doit de répondre à la demande sociale en interne concernant les risques liés à la pollution atmosphérique. C'est l'un des principaux risques géopolitiques identifiés à l'heure actuelle par le pouvoir et c'est un risque de déstabilisation majeure. Alors la Chine, elle a pris cette question à bras-le-corps. Vous l'avez dit dans votre introduction, c'est il y a 332 milliards d'investissements dans les énergies renouvelables. En 2017, la Chine représentait 45% de ces investissements. C'est le premier investisseur mondial. Elle investit dans l'ensemble des vecteurs de la transition énergétique, c'est-à-dire que ce soit les dépenses de R&D pour la décarbonation, la mobilité électrique. C'est le premier parc électrique mondial au niveau des véhicules, le recyclage, la surveillance des écosystèmes. Et en plus, elle a, j'allais dire, ajouté une corde financière à son arc où elle veut verdir la finance de son système financier et bancaire. C'est-à-dire que la Chine, elle répond à cette demande interne, mais elle répond aussi à une demande industrielle. C'est-à-dire que oui, la Chine, elle ralentit. Et il faut trouver, en fait, des nouveaux leviers de croissance. Les énergies renouvelables en sont un. Mmh. Et bien évidemment, le plan Made in China 2025, hein, cette montée en gamme technologique, elle va permettre de répondre en fait à ces trois défis, c'est-à-dire à la fois la montée en gamme qui va permettre de devenir des nouveaux leviers de croissance et bien évidemment qui va permettre de répondre à la transition énergétique. Et si par-dessus vous rajoutez, j'allais dire, la composante géopolitique de leadership, la Chine, elle se sert de cette transition énergétique pour affirmer en fait sa puissance au niveau international et ce d'autant plus que son grand rival, les États-Unis, notamment à travers Donald Trump a quitté les accords de Paris ou souhaite les quitter dès les 6 premiers mois de son mandat. C'est-à-dire que les États-Unis ont ouvert la porte, ont fait un tapis rouge à la Chine en fait sur la question des énergies renouvelables. Mais bien évidemment, la Chine est centrale sur cette question.
La Chine centrale sur la question des énergies renouvelables, Samuel Karkanag.
Oui, sur tous les aspects qu'on a évoqués depuis le début, que ce soit les matériaux critiques, que ce soit la propriété intellectuelle, que ce soit aussi d'ailleurs la consommation d'hydrocarbures, on le voit avec les enjeux autour de l'exemption de sanctions décidées par Trump pour le pétrole iranien qui devrait se terminer dans les jours qui viennent. La Chine est absolument centrale dans la transition énergétique mondiale sur tous les aspects. C'est un pays qui s'affirme en leader à la fois technologique, évidemment, politique, Emmanuel H. l'a dit, et en termes aussi de ressources, puisque on a parlé des terres rares, la Chine est premier producteur de terres rares, mais aussi premier producteur d'un certain nombre d'autres matériaux nécessaires à la transition énergétique. Donc oui, la Chine est absolument centrale dans la transition énergétique, à la fois mondiale et dans la lutte contre le changement climatique, mais aussi les transitions énergétiques européennes ou des pays du Sud.
Alors on parlera bien sûr dans la deuxième partie de l'émission de l'Europe, des États-Unis plus largement. Peut-être quelques mots pour terminer cette première partie. Vous l'avez dit, la Chine est devenue en l'espace de quelques années un acteur industriel majeur dans les énergies renouvelables. La Corée du Sud également. Emmanuel H., je ne sais pas si c'est vous qui souhaitez répondre sur cette question.
Ou
Clément Bonnet.
Oui, alors la Corée du Sud, en fait, a eu une stratégie qui a en fait été copiée par la Chine plus récemment. La Corée du Sud, historiquement, s'est plutôt positionnée sur les technologies de tout ce qui était le logiciel les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ces dernières années, on observe quand même de la part de ce pays, et c'est une tendance qu'on retrouve également en Chine, une réallocation de ses efforts de R&D vers des technologies vertes, puisque la Corée du Sud également caresse un projet assez ambitieux en termes de transition énergétique. Donc, pour l'instant, reste dans le sillage de la Chine, mais ce virage vert qu'on observe en Chine a également eu lieu en Corée du Sud.
Géopolitique, nous retrouvons nos invités Clément Bonnet, Emmanuel H. et Samuel Karkanag après le journal. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique en partenariat avec la Revue internationale et stratégique, dont le dernier numéro est consacré à la transition énergétique et à ses conséquences géopolitiques. Nous retrouvons nos invités par téléphone. Samuel Carcanac, chercheur à l'IRIS. Emmanuel H., économiste à l'IFP Énergie Nouvelle et porteur du projet ANR Generate. Et Clément Bonnet, post-doctorant à l'IFP Énergie Nouvelle. Nous avons évoqué dans la première partie de l'émission la Chine, devenue en l'espace de quelques années un acteur industriel majeur dans les énergies renouvelables. Et je l'évoquais en introduction, finalement, parmi les questions qui se posent, c'est ce passage d'une dépendance à une autre, dépendance aux hydrocarbures et aujourd'hui dépendance aux matériaux nécessaires aux technologies liées au changement climatique et aux énergies renouvelables. Emmanuel H., on a évoqué la question des terres rares que vous n'aimez pas, vous n'aimez même pas le terme, vous parlez plutôt de terres stratégiques,
de matériaux stratégiques.
Alors, on a évoqué la Chine, dont vous disiez qu'elle était aujourd'hui importatrice de matériaux stratégiques. Quel état des lieux et quelle géopolitique peut-on faire aujourd'hui de ces nouvelles dépendances?
Mais écoutez, on peut adopter plusieurs points de vue, en fait. Les matériaux rentrent dans la composition des technologies des énergies renouvelables. On va peut-être prendre deux exemples, parce que généralement, lorsqu'on associe technologies des énergies renouvelables, on pense tout de suite à matériaux stratégiques, c'est-à-dire le lithium, le cobalt, ce qui rentre par exemple dans les batteries des véhicules électriques. Et on parle très peu, en fait, des matériaux dits de structure, par exemple le cuivre. La question du lithium, par exemple, c'est un point très important, en fait, dans la géopolitique des énergies renouvelables. Lorsque vous regardez la production, elle est réalisée à plus de 60% en Australie, autour de 20% au Chili. Vous avez tout un groupe de pays, en fait, donc Chili, Australie, Argentine, en fait, tout le triangle andin, ce qu'on appelle le triangle du lithium. Quelles seront leurs stratégies nationales à l'horizon 2050? Nous ne les connaissons pas. Sur la question du lithium encore, généralement, lorsqu'on parle du marché pétrolier, on dit souvent qu'il est très concentré. Que diriez-vous d'un marché, en fait, sur lequel 5 entreprises, en fait, concentrent 90% de la production mondiale? C'est le cas du lithium. Mmh. À l'heure actuelle, vous avez 5 entreprises, en fait, qui concentrent 90% de la production mondiale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, possiblement, à l'avenir, il y aura des rapports de force géoéconomiques importants, que ça soit au niveau des États ou au niveau des entreprises. Après, il faut peut-être aller à l'encontre, en fait, de l'idée également. Lorsqu'on parle de matériaux, tout de suite, on a la crainte du millénaire, c'est-à-dire qu'on a l'impression que géologiquement, ils vont manquer. Ces métaux ne devraient pas géologiquement manquer. La rareté sera relative et c'est le processus des coûts de production, en fait, qui va, comment dire, gérer, en fait, cette rareté relative. Par contre, ce qui est très intéressant, et c'est une étude que nous avons menée notamment avec Clément Bonnet et Samuel Carcanag, lorsque vous regardez un matériel comme le cuivre, le cuivre, eh bien, à l'heure actuelle, il y a possiblement également des tensions, en fait, sur le marché du cuivre, et nous, on a l'habitude de dire, en fait, dans notre groupe de travail, petits métaux, petits problèmes, grands métaux, grands problèmes. Or, à l'heure actuelle, possiblement, il y aura peut-être des tensions sur le marché du cuivre. Pourquoi? Parce que le cuivre, il est utilisé dans de nombreux secteurs de l'économie et notamment, c'est une ressource indispensable à la transition énergétique.
Tension marché du cuivre, et c'est comme cela aussi que l'on voit étendre leur puissance et leur assise, je pense au Chili.
Oui. Est-ce que le Chili va être un gagnant, en fait, de la transition énergétique? D'un point de vue des ressources, oui, c'est le premier producteur mondial de cuivre, c'est le deuxième producteur mondial de lithium. D'un autre côté, vous pouvez vous poser la question de est-ce que la transition énergétique ne va pas enfermer le Chili dans une espèce de primarisation de son économie, alors que lui-même, il souhaite monter en gamme? Et troisième point de vue, c'est le point de vue environnemental. Vous avez des conflits d'usage, notamment dans la ressource aquifère entre les producteurs de lithium et de cuivre, qui font que à l'heure actuelle, il y a véritablement un stress hydrique, en fait, au niveau des mines chiliennes.
Alors, les pays producteurs d'hydrocarbures, on en a dit quelques mots dans la première partie lorsque on évoquait, et c'était vous, Emmanuel H., vous évoquiez cet empilement énergétique. Est-ce à dire que finalement, les pays producteurs de pétrole, on pense bien sûr à l'Arabie Saoudite et puis les autres pays de la péninsule arabique, est-ce que leur économie risque d'être fragilisée parce que, moins de pétrole et plus d'énergie renouvelable, ou au contraire, puisqu'on est dans l'empilement énergétique, on va toujours vendre plus de pétrole et de gaz? Qui souhaite répondre à cette question? Clément Bonnet ou Samuel Carcanac?
Oui, on vient de parler du Chili comme potentiel gagnant de la transition énergétique. Il faut qu'on s'intéresse effectivement au potentiel perdant. Alors, comme on le disait au début de l'émission, on va pas s'arrêter de consommer du pétrole. Hein. La consommation va augmenter, malheureusement, hein, puisque les objectifs climatiques nous commanderaient de réduire notre consommation d'hydrocarbures, évidemment. Mais la consommation de pétrole va continuer d'augmenter. Mais, en fait, la transition énergétique fait peser une incertitude sur le futur de cette consommation du pétrole, sur le futur du prix du pétrole. Et désormais, posséder des ressources en pétrole et investir dans l'exploration et la découverte de nouveaux gisements ou l'exploitation de nouveaux gisements est devenu risqué pour les investisseurs. Alors effectivement, tous les pays producteurs d'hydrocarbures et exportateurs, surtout d'hydrocarbures, dont l'économie est principalement basée sur cette exploitation, ce qu'on appelle les États rentiers, qui en fait tirent l'essentiel de leur richesse de l'exploitation d'une matière première, en l'occurrence le pétrole et le gaz, ces pays sont extrêmement exposés à la volatilité et à l'incertitude que fait peser la transition énergétique sur le secteur pétro-gazier. Alors on peut distinguer en gros quatre groupes de pays, ceux qui sont très exposés à cette volatilité et à cette incertitude, mais qui sont aussi très résilients, qui ont des capacités de rebond, notamment financières. C'est l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis par exemple, qui possèdent des fonds souverains extrêmement importants et qui du coup ont des capacités de s'adapter à la transition énergétique. Il y a ceux qui sont exposés mais un peu plus diversifiés, c'est la Russie, l'Azerbaïdjan, l'Iran. Ils sont effectivement dépendants du cours des hydrocarbures, mais ils ont une économie légèrement plus diversifiée. Ils ont souvent une population aussi plus éduquée, un capital humain un peu plus important, et donc peuvent s'adapter plus ou moins à la transition énergétique. Bon, il y a évidemment ceux qui ne sont pas peu exposés, car avec une économie très diversifiée et pour lequel le secteur pétro-gazier représente une part peu importante de leur économie, c'est les États-Unis, c'est la Norvège par exemple, qui n'ont pas peur de la transition énergétique. Et puis il y a le dernier groupe qui est le plus préoccupant, ce sont les pays qui sont d'une part donc très exposés, très dépendants du cours des hydrocarbures et qui ont des capacités de résilience très faibles. C'est la Libye, c'est l'Irak, c'est l'Angola, c'est le Congo par exemple. Ces pays-là sont préoccupants et pourraient représenter des sources d'instabilité dans les années qui suivent selon la nature et le rythme de la transition énergétique. Comment va-t-on consommer du pétrole? Combien va-t-on en consommer? Comment ces pays vont adapter leur économie à ce nouvel environnement? Est-ce qu'ils vont réussir à diversifier leur économie? Est-ce qu'ils vont réussir aussi à soutenir le développement démographique, souvent, qu'ils ont dans leur pays? En Irak, par exemple, 40% de la population a moins de 14 ans. C'est le cas aussi de l'Angola, c'est le cas du Nigeria. Et donc, les défis en termes sociaux et en termes économiques sont énormes, alors même que la ressource et la rente pétrolière pourraient s'amenuire dans les décennies qui viennent.
Emmanuel H.
Je rebondis sur ce que vient de dire Samuel Karkanag. Il y a un point très important, en fait, d'un point de vue de la manière dont nous amenons la géopolitique de la transition énergétique et la transition énergétique en elle-même, en fait. Nous oublions, généralement, en fait, que les pays producteurs de pétrole ont en grande partie la clé de notre transition énergétique.
Alors, décryptage.
Alors, ils l'ont, en fait, notamment par rapport à leur influence sur le prix du pétrole. Très rapidement, si le prix est bas, il n'y a pas d'incitation ou des incitations, en fait, à la fois à breveter des technologies bas carbone et plutôt faibles, à la fois à investir dans les énergies renouvelables et plutôt faibles dans les pays consommateurs. Si le prix est trop élevé, qu'est-ce qui va se passer? Effectivement, il y a une incitation pour les pays consommateurs à le faire, mais du coup, en fait, les pays rentiers se retrouvent avec une manne qui va progressivement diminuer, et donc ils ne vont pas pouvoir financer, en fait, leur transformation économique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, oui, tous les pays dont Samuel vient de parler, enfin, on va dire la grande majorité, ont des visions 2030, vision 2025, etc., etc., transformation économique et énergétique. Mais ce qui est très important, c'est de voir que nous ne pouvons pas dissocier, en fait, notre transition de leur propre transition. Or, à l'heure actuelle, lorsque vous regardez, que ça soit au niveau des négociations internationales, que ça soit, j'allais dire, au niveau de la pensée globale autour des questions énergétiques, on a toujours l'impression qu'il y a d'un côté les producteurs, de l'autre côté les consommateurs. À l'heure actuelle, la transition énergétique internationale ne peut pas se penser comme ça et ne peut absolument pas se penser sans réfléchir notamment à cette variable de prix du pétrole qui est véritablement une clé très importante en fait de la transition.
Alors juste quelques chiffres peut-être, puisqu'on évoquait un certain nombre de pays, d'ailleurs on n'a pas parlé du Nigeria, mais je le fais maintenant, dans les pays dont vous parliez, Samuel Karkana, il y a quelques instants, les revenus liés au secteur des hydrocarbures représentent, c'est assez intéressant juste pour nos auditeurs, parce que ça donne des ordres d'échelle, 78% du budget de l'Arabie Saoudite, 80% de celui des Émirats Arabes Unis, et 50% de l'État de Russie. Donc on a bien compris la dépendance forte de l'innovation bas carbone au prix des énergies fossiles. Et finalement, tout ça fait peut-être pour les pays producteurs d'hydrocarbures, ça leur permet de conserver une place centrale dans la géopolitique des énergies renouvelables. Peut-être important à ce stade de l'émission, Clément Bonnet, je me tourne vers vous, d'essayer de comprendre quelles sont les stratégies des uns et des autres par rapport à cette question des énergies renouvelables. On a parlé de la Chine, que dire aussi des États-Unis et de l'Europe, Clément Bonnet?
Oui. En Europe, et comme sur beaucoup d'autres sujets, on a un manque d'ambition partagée sur les filières des énergies renouvelables. Donc on a quelques pays qui s'en sont très bien sortis, je pense notamment à l'Allemagne, Danemark, aux Pays-Bas, qui ont réussi à déposer énormément de brevets, à être très très performants. Je pense à l'Espagne également, même si sa filière, depuis la crise de 2008, en a pris un coup. Mais on n'a pas de vision partagée au niveau européen sur les efforts à faire en termes d'innovation dans les énergies renouvelables et sur la construction de filières qui bénéficient à l'ensemble de l'Europe.
Pas de vision à 27-28, en attendant de savoir ce que va faire la Grande-Bretagne.
Non.
C'est cela que vous voulez dire?
Non, finalement... parce qu'on est dans des pays qui restent sur un schéma de compétition géoéconomique. Et donc, les quelques pays leaders dans la filière éolienne, par exemple, ont absolument pas intérêt à partager ces ressources et ces moyens avec les autres pays. Ou je pense à un pays comme la France qui a fait le choix du nucléaire et qui a complètement loupé le virage de l'éolien, reste plutôt enfermé, verrouillé dans ce choix-là, dont on verra s'il portera ses fruits ou non. Au contraire, quand on regarde la situation de la Chine, par exemple, c'est très intéressant, puisqu'on a eu toute cette crainte au début des années 2000 à voir le nombre de brevets déposés par la Chine totalement s'envoler. On a une croissance exponentielle du nombre de brevets, et la Chine, maintenant, est le pays qui dépose le plus de brevets dans le monde. Il faut savoir qu'avant 2009, le système de brevets chinois était conçu de telle manière où toute invention brevetée en Chine n'était pas nécessairement nouvelle sur le plan planétaire. Elle était simplement nouvelle en Chine. Et donc ça leur a permis en fait d'utiliser de manière assez stratégique leur système de brevets pour absorber toute une partie de la connaissance étrangère, la recodifier dans des modes de production chinois et également forcer d'une certaine manière le transfert de technologie, puisque si vous étiez une entreprise européenne par exemple et que vous vouliez installer des éoliennes en Chine, ben vous aviez l'obligation de créer un partenariat avec une entreprise chinoise. Et donc entre 2000 et 2009, on a eu toute cette vague d'absorption de la connaissance étrangère par la Chine, sur laquelle maintenant elle construit, parce que la Chine est devenue plutôt innovante, n'est plus simplement à imiter ses concurrents, mais maintenant innove dans ses technologies. Donc on a vraiment une stratégie pour le coup plutôt de long terme sur la Chine, puis comme on le disait avant, qui est complètement articulée avec les réserves dont elle dispose sur les métaux rares.
Quelques mots sur les États-Unis. Alors, je ne sais pas si vous souhaitez répondre, Clément Bonnet, ou...
Alors, les États-Unis, forcément, c'est un des acteurs majeurs de l'innovation. Donc, c'est-à-dire que si vous prenez à peu près n'importe quel champ technologique, les États-Unis s'en tirent très bien. Et donc, on peut avoir une forme d'illusion, au premier abord, de penser que les États-Unis sont ont en tout cas alloué des efforts particuliers au secteur des énergies renouvelables. Mais quand on regarde les efforts faits dans les secteurs des énergies renouvelables par les États-Unis en comparaison d'autres secteurs, je pense notamment au secteur de l'informatique, on voit qu'en fait les États-Unis ne considèrent pas ces champs-là encore comme des priorités absolues. Donc ils ont quelques champions internationaux qui souhaitent protéger à tout prix, je pense notamment à General Electric. Les États-Unis ont conservé pendant longtemps un marché domestique qui allait notamment bénéficier à leurs entreprises nationales, mais on observe plutôt un ralentissement en tout cas de leur performance dans ces technologies sur les dernières années.
Alors, on a évoqué les opportunités que créent les énergies renouvelables. Samuel Karkana, Emmanuel Hache, il y a aussi des fragilités. Je pense à cette question de la numérisation du secteur énergétique qui pourrait créer des vulnérabilités aux cyberattaques, pouvant déboucher sur des manipulations de l'approvisionnement en électricité. Là où cette question de l'énergie, elle va ouvrir aussi d'autres rapport géopolitique, on sera moins dans du bilatéral, mais dans une sorte de réseau, des rhizomes qui vont mettre en connexion plusieurs pays. Emmanuel H.
La question de la cybersécurité, elle existe déjà et on n'a pas besoin, j'ai envie de vous dire, d'avoir des énergies renouvelables en fait pour avoir des questions de cybersécurité. Ce qui est sûr, c'est que si vous imaginez en fait des réseaux qui sont de plus en plus décentralisés au niveau des régions, des provinces, au contraire, vous pourriez avoir en fait une forme d'autarcie énergétique qui pourrait poser d'autres problèmes. Par contre, si vous pensez en fait des grands pôles électriques renouvelables, comme on en imagine à l'heure actuelle, notamment en Europe de l'Est, oui, ça peut poser des problèmes de cybersécurité. Et puis surtout, ça peut amener à la coopération entre les pays. Mais encore une fois, on va se retrouver avec l'obligation d'investir de la même façon en fait dans tous les pays, tout simplement parce que la cybersécurité, en fait, elle va jouer le maillon faible, c'est-à-dire celui qui investira le moins. Après, cette question des réseaux électriques, moi personnellement, elle m'interroge en fait sur la notion de contrat social, c'est-à-dire que là on n'est plus dans de la géopolitique internationale, on est dans de la géopolitique locale. Comment faites-vous pour faire du lien dans un pays où, on le sait tous, l'énergie c'est un vecteur de construction des pays, à la fois dans leurs entreprises, dans leurs stratégies, dans leur politique et dans leur cohésion. Quel contrat social si vous n'avez plus, j'allais dire, de dépendance à l'autre, en fait, en matière énergétique. Mais là, on dépasse le cadre du débat.
Donc là, vous évoquez la question de l'autarcie totale. Je voudrais, pour terminer cette émission, évoquer rapidement l'IRENA, qui a été créée en 2011 aux Émirats Arabes Unis, qui a permis la mise en place d'un cadre mondial dédié à la coopération dans le secteur des énergies renouvelables. 160 États, peut-être un peu plus maintenant, et l'Union européenne font partie de cette organisation, qui a par ailleurs créé une commission mondiale chargée d'examiner la géopolitique de la transformation énergétique. Samuel Carcassonne, Kana, vous souhaitez en dire quelques mots ?
Oui, donc c'est l'International Renewable Energy Agency. Effectivement, c'est, comme le disait Emmanuel H., c'est l'Agence internationale de l'énergie, mais dédiée aux énergies renouvelables. Elle n'a pas un poids politique énorme pour l'instant, mais elle produit des rapports extrêmement intéressants sur les différents sujets. Elle montre aussi l'intérêt des différents États pour cette question de la transition énergétique et de sa gouvernance en quelque sorte et des enjeux mondiaux qu'elle soulève. Donc c'est effectivement une agence qui pourrait gagner en importance et en poids dans les années à venir.
Emmanuel H.
Oui, juste un mot à rajouter. La localisation de l'IRENA est très importante géopolitiquement.
Émirats Arabes Unis.
Oui, Émirats Arabes Unis versus Paris pour l'Agence internationale de l'énergie. C'est-à-dire qu'on a placé une agence dédiée aux énergies renouvelables dans un pays producteur d'hydrocarbures, entouré de pays producteurs d'hydrocarbures. Si les images ou les signes ont un sens, il est très profond. C'est-à-dire que cette organisation, elle a aussi pour vocation en fait de parler à l'ensemble des pays, c'est-à-dire les pays producteurs et les pays consommateurs. Et c'est dans cet esprit qu'on pourra faire la transition énergétique internationale.
Clément Bonnet ?
J'abonde sur l'IRENA, notamment c'est sur le plan technologique, c'est un des lieux d'échange d'informations et de compétences sur les technologies des énergies renouvelables, donc c'est un lieu central bien entendu.
Merci, c'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités, à Samuel Carcana qui était avec nous par téléphone, chercheur à l'IRIS, Emmanuel H, économiste à l'IFP Énergie Nouvelle et porteur du projet ANR Generate, et Clément Bonnet, post-doctorant à l'IFP Énergie Nouvelle. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. À demain.